sailor. Oh, Bertie, Bertie. Les jeunes en développement, ça fait déjà trop longtemps. Bertie. Oh, sailor, sailor. Va chercher un gagnant, un leader, un combattant. Je veux juste savoir si tu vas négocier un peu. Je veux juste savoir, mon vieux. Je veux juste te croire quand tu me dis que ça va changer. Mais si tu pour cette année, c'est l'heure. Ah, oh, Bertie, Bertie. C'est bien beau, les enfants, mais ce qu'on veut, c'est des gagnants. Ah, Bertie! Oh, c'est l'heure, c'est l'heure. Déjà 20 ans qu'on attend. Ronald est un petit peu impatient. Ronald a plus le temps.
Philippe Quentin, salut!
Ron, c'est la plus belle version de Sugar Sugar Honey Honey que je n'ai jamais entendue.
Ah, bien gentil, mais oublie pas, ça fait quand même 3 ans que Ronald a composé cette toune.
Alors, ben, c'est
le temps, c'est le temps, Bertie.
Ouais.
C'est le temps, mais ça fait 3 ans que ça dure, ça perdure.
Oui, ça fait longtemps que ça dure, ça fait très longtemps que ça dure.
Alors toi, tu vois ça comment? Est-ce qu'effectivement, maintenant, un petit cadeau, des fêtes, serait agréable et surtout pourrait nous permettre d'espérer quoi? Espérer quoi? Espérer qu'on soit dans cette course pour une place en série, puis qu'à la fin, au mois de mars, on réalise que non, il nous manque encore de quoi, mais au moins, pendant 3-4 mois, il y a eu de l'espoir, on a regardé les jeunes se développer, mais pas presque lancer la serviette dès le mois de janvier. Je sais pas comment tu vois ça.
Ben, je pense que ce serait agréable, c'est sûr. Là, tout le monde aimerait ça que le Canadien profite d'un petit peu de renfort. Mais je trouve, Ron, que Marc Bergevin est dans une très mauvaise position pour négocier. Tout le monde sait que c'est important pour lui de participer, que son équipe participe aux séries éliminatoires. C'est important pour son avenir personnel à Montréal. Je vois pas comment il pourrait demeurer directeur général si le Canadien ratait de nouveau les séries une 4e fois en 5 ans. Alors ça, les autres directeurs généraux le savent. Et quand il les appelle pour proposer un marché, on peut croire que ses homologues l'attendent avec une brique et un fanal. T'sais, ils lui feront pas de cadeau. Là. Et donc, ça le place dans une position très fragile pour négocier. Il n'est vraiment pas dans le siège du conducteur. Et ça, je pense que ça va compliquer de beaucoup, beaucoup sa tâche.
Est-ce que tu crois, un peu comme Ronald, que si on allait chercher un ou deux joueurs, ça pourrait stimuler la troupe? Ça pourrait aider la cause de Claude Julien, qui lui est désespéré. Il ne le dit pas, mais lui dit Caroline, j'ai beau presser le citron, mais les gars me donnent ce qu'ils peuvent maintenant.
Ben ouais. Ouais, ben il l'a dit, hein, il l'a dit une fois ou deux, là, quand il a dit qu'on cherchait encore un premier défenseur gaucher, là, ça faisait très longtemps qu'on avait entendu un entraîneur du Canadien mettre un petit peu au défi son directeur général comme il l'a fait. Remarque que ça remonte déjà à quoi? Un mois à peu près quand il a dit ça, mais moi ça m'a impressionné parce que je me souviens pas même d'avoir entendu un Michel Therrien dire ça à propos de Marc Bergevin. Alors, donc on sent que lui commence à être un peu impatient, puis on le sent d'ailleurs, on le sent dans ses commentaires d'après-match. Claude Julien s'en prend aux arbitres après une défaite. Moi, pour moi, c'est pas le Claude Julien qu'on connaît. T'sais, c'est un Claude Julien qui devient impatient, et sans doute avec raison, donc il veut de l'aide. Mais, tu sais, est-ce que Bergevin est vraiment en mesure de lui en apporter à l'heure actuelle? Le problème majeur chez le Canadien, c'est que la période pour améliorer une équipe, c'est l'été. Et le Canadien a été largement inactif cet été. Je comprends qu'il y a eu cette tentative pour Sébastien Nao, mais pour le reste, là, ça a été Jordy Benn pour Ben Chariot. Grosso modo, ça ressemble à ça. On est allé chercher, on avait ciblé comme problématique le gardien réserviste. On dit qu'il faut absolument trouver un gardien réserviste qui va être capable, qui va être assez expérimenté pour comprendre c'est quoi le rôle de réserviste de Carey Price, c'est-à-dire accepter de ne pas jouer très souvent, puis accepter quand on joue d'avoir beaucoup de pression parce qu'il faut gagner. Alors, on va chercher un gars d'une trentaine d'années, Keith Kincaid, et on voit le résultat, ça n'a pas fonctionné. Alors, tu sais, ça n'a pas été un gros été pour Marc Bergevin. Et quand tu n'as pas un gros été dans cette ligue-là, ça devient devient très, très difficile une fois la saison commencée.
Sauf que Sherrod, il faut l'admettre, c'est une belle acquisition. Ouais. Dans les trois derniers matchs, il est +1, +1, +2.
Il va bien.
Il va bien, même dans la défaite. C'est un des meilleurs défenseurs de l'équipe. Il va bien. Sauf qu'on a perdu Ben. J'aurais bien aimé qu'on garde Ben. Garde Ben puis qu'on aille chercher Sherrod.
C'est toujours le problème avec Marc Bergevin, c'est qu'il fait des additions intéressantes, mais il perd des joueurs. On se demande un peu pourquoi. T'sais, Radulov, moi, j'ai pas encore compris pourquoi il avait quitté Montréal. Je comprends le contrat et tout, puis le fameux plafond salarial. Mais tu sais, il en reste pas moins que ça fait 3 années maintenant que le Canadien est largement sous le plafond salarial. Puis l'organisation arrête pas de nous dire « Ouais, mais pour les contrats des jeunes qui s'en viennent, ça va coûter une fortune, faut se prévenir. » Des fois, je trouve que le Canadien complexifie la notion de plafond salarial de façon incroyable. C'est comme si c'était l'équipe pour qui c'était le plus difficile de gérer ça. Résultat, on se garde tout le temps un gros coussin. Mais là, tout à coup, les gens viennent impatients, disent « Non, pourquoi on a un coussin? Une année, ça va. OK, il y a peut-être un plan. » Non, il n'y en avait pas de plan. Le coussin, il est resté coussin. Deuxième année, le coussin demeure coussin. Troisième année, ben jusqu'à preuve du contraire, c'est encore un coussin. Mais à quoi ça sert au juste? T'sais, tout à coup, tu géreras, tu traverseras la rivière quand tu seras rendu au pont. La journée où il faudra payer Kotkaniemi 8 millions par saison, ben on verra comment il réagira. Mais là, on s'entend, Ron, on n'en est pas là, là.
Non, je suis d'accord avec toi au sujet du fameux coussin. On dit on a besoin de ce coussin si jamais on fait une offre à un agent libre sans restriction. Puis ce gars-là commande des 8, puis 9, puis 10 millions, bien, on va avoir l'argent nécessaire. Sauf que si tu réalises un coup de maître comme ça, si ça devient un coup de maître, évidemment, là, tu te réajusteras. Tu fais comme les Maple Leafs de Toronto, tout simplement. Puis ça finit là, ça finit là.
Exactement, exactement. Ça prend un peu d'imagination. Puis tout à coup, peut-être que tu vas laisser aller un joueur que tu aurais préféré garder. Mais généralement, ce ne sera pas un de tes 4, 5, 6 principaux piliers. Ça va être un joueur qui va être dans la deuxième moitié de l'équipe. Puis ça arrive. Ça fait partie de la gestion au courant. Alors, mais le Canadien ne fonctionne pas comme ça. Puis là, aujourd'hui, il se retrouve dans une situation très, très, très délicate. Parce que, comme je te le disais tantôt, pour moi, Marc Bergevin est non seulement pas en position de force pour négocier, il n'est même pas en position égale avec peu importe avec qui il va négocier. Il est un petit peu mal pris. Parce qu'on sait qu'à Montréal, il y a une situation particulière. La pression est forte sur lui. Ça fait 2 ans qu'on se demande s'il va être encore directeur général l'année suivante. Jusqu'à maintenant, il a réussi à sauver son poste, mais 4 absences des séries en 5 ans. Moi, je pense que Jeff Molson n'aura pas le choix. Là.
Ben, attends une seconde. Là. Philippe Quentin, OK, qui a une certaine influence ici au Québec. Philippe Quentin affirme que si le Canadien est exclu des séries, Marc Bergevin perd son job.
Maintenant... Non, c'est pas ça que je dis. Okay, je veux juste préciser. Okay. Je pense que Jeff Molson n'aurait pas le choix de le faire, mais je connais Jeff Molson et je sais qu'il est très patient. Il est trop patient, à mon avis. Mais c'est clair que Jeff Molson, s'il fait rien à ce moment-là, là, c'est vers lui que la pression va se retourner. Tu sais, moi, j'ai lu un livre que j'ai trouvé extrêmement intéressant, Ron, c'est la biographie de Derek Molson, qui a été écrite par sa belle-fille, la femme d'Andrew Molson, qui est le frère de Jeff. Et quand on lit la biographie d'Eric Molson, il y a une chose qui nous frappe, c'est comment cet homme-là, dans sa gestion, a été patient, mais il a été trop patient. Il y a des présidents des brasseries Molson qu'il n'a pas aimé, qu'il trouvait qu'il ne prenait pas les bonnes décisions, il n'aimait pas leur style de gestion, il n'aimait pas comment ça se passait, mais ça lui a pris des années et des années, tout à coup, avant de mettre son poing sur la table puis de dire « là, c'est assez ». Puis moi, je regarde un peu Jeff, qui a des qualités formidable. Je regarde la manière, Ron, dont il a développé le groupe CH qui est rendu aujourd'hui un joueur tellement important, non seulement dans le secteur du sport à Montréal, mais dans le secteur du spectacle aussi. Ouais. C'est fantastique là, depuis qu'ils ont acheté les frères Molson et leurs partenaires, depuis qu'ils ont acheté l'entreprise en 2009, l'essor qu'ils lui ont donné. Ils en ont fait un groupe tellement puissant de sport-spectacle, extrêmement diversifié avec Jacques Aubé chez Evenco et tout. C'est un travail fantastique. Mais au niveau de prendre des décisions, au niveau du hockey, puis de dire là, il va peut-être falloir aller dans une autre direction. Je le sens encore hésitant à faire ça. Il aurait eu l'occasion de le faire dans le passé. Il a décidé d'acheter le plan que lui a proposé Marc Bergevin. Mais tout à coup, on peut se demander combien de temps il va endurer ça. Alors, moi, je pense qu'il n'aura pas le choix, mais ça ne veut pas dire qu'il le ferait nécessairement en raison de la patience, parce que je vois beaucoup du père dans le fils.
Mais si Philippe Quentin avance que Bergevin ne doit plus, n'est plus l'homme de la situation. Et si d'autres se joignent à toi là-dedans, il n'y aura pas le choix. Alors, sachant cela, Marc Bergevin, il doit se dire, faut au moins que je fasse le maximum pour me donner une chance de bien paraître là-dedans. C'est ce qui me fait croire qu'il pourrait procéder à un certain changement. Est-ce qu'il y en a qui vont lui reprocher à ce moment-là de changer son plan? Son plan, c'est je donne pas mes choix, bing bang, bing bang, je développe, puis après, je drafte bien, je repêche bien, puis je développe. Ça, c'est son plan. Mais là, peut-être que là, s'il change son plan, qu'est-ce que les gens vont dire de lui? Ils vont dire, c'est ça, il sait pas où il s'en va.
Ouais, ben écoute, c'est ça quand t'es gestionnaire d'une entreprise, là, regarde, il faut que tu fasses abstraction de ça puis que tu prennes les décisions qui t'apparaissent les meilleures.
Savoir mais s'ajuster, c'est ça que tu dis?
Ben oui, c'est exactement. Faut savoir s'ajuster. Puis tu sais, la conversation qu'on a ce soir, je sais pas si tu viens, Ron, on a eu une conversation un peu semblable la saison dernière à la date limite des transactions. Si ma mémoire est bonne, et tu me corrigeras si je me trompe, mais je pense pas me tromper, toi, tu étais pas tellement content que Marc Bergevin ne bouge pas à la dernière date limite des transactions. C'est ça. Et tu croyais qu'il allait le faire.
Ouais.
Alors là, tu sais, on le sent. Là, est-ce que et là, moi aussi, je pense qu'il devrait agir. Mais là, est-ce qu'il va le faire? Écoute, on verra. Mais l'an dernier, quand il aurait eu la chance, il est resté très, très, très... en tout cas, il a pas bougé.
Ouais.
Moi, à ce moment-là, je dois t'avouer que je trouvais que c'était probablement une bonne idée parce qu'on voulait voir les jeunes se développer et tout, mais je pensais pas que le Canadien participerait aux séries cette année, mais je pensais voir une progression. Puis là, ce qu'on a vu dans le mois de novembre, c'est pas une progression, puis c'est ça qui m'inquiète un peu.
OK, bon. Si tu le veux, je vais te parler d'un dossier qui t'intéresse grandement. Écoute, la Ville de Québec et la Commission de la capitale nationale de Québec ont lancé officiellement le processus visant à honorer un joueur marquant des Remparts ou l'époque des Nordiques là, dans l'Association mondiale et ainsi de suite à la Ligue nationale. Bon, toi, ton choix, c'est qui? Parce que t'as bien des gars, là. Tu sais, les statuettes sont déjà honorées, là, mais là-dedans, là, t'as Jean-Claude Tremblay, t'as Marc Tardif, t'as Michel Goulet, t'as Réal Baudet-Cloutier, t'en as un paquet, là. Ouais. Qui t'honorerait en tout premier?
Ah, pour moi, là, la réponse à cette question-là, elle est évidente et je pense qu'il y a un joueur qui le mérite plus que tout parce que c'est lui qui a sauvé la concession des Nordiques quand on connaît l'histoire des Nordiques et c'est Marc Tardif. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Bien sûr, Jean-Claude Tremblay a été important. Jean-Claude Tremblay a été le premier joueur avec un grand profil, un grand palmarès qui s'est joint aux Nordiques juste avant leur première saison dans l'Association mondiale de hockey en juillet 72. Là, les Nordiques commencent dans l'AMH. Mais à leur troisième saison dans l'Association mondiale, à l'automne 1974. Ça fait 2 ans qu'ils sont dans l'AMH. Et là, Ron, ça commence vraiment à mal aller. Il y a à peu près 6000 personnes plutôt que 8 ou 9000 dans les gradins pour chaque match au Colisée. L'équipe n'a pas participé aux séries éliminatoires à ses deux premières saisons dans l'AMH. Donc, tous les revenus potentiels d'une participation aux éliminatoires ne sont pas là. Et là, on commence à Québec à s'interroger sur l'avenir des Nordiques. Est-ce que cette aventure dans l'AMH va durer? Puis déjà, il y a des équipes de l'AMH qui commencent à avoir des ennuis. Il y en a qui disparaissent. Il y en a qui déménagent et il y a bien des gens à ce moment-là qui pensent que ça va être le cas des Nordiques. Et là, en décembre 1974, écoute, c'est à peu près la date, c'est à peu près jour pour jour, là, la date d'aujourd'hui, c'était le 8 décembre 1974. Maurice Filion, qui était directeur général des Nordiques, effectue une méga transaction avec les Stags du Michigan. Transaction dans laquelle il obtient Marc Tardif. Les Stags du Michigan, c'était les anciens Sharks de Los Angeles, avec lesquels Marc avait signé son contrat un an plus tôt. L'équipe, ça n'a pas trop marché à Los Angeles, déménage à Détroit, on les appelait les Stags du Michigan, ils jouaient dans un piteux amphithéâtre qui attirait 1000 personnes par match. Évidemment, ça n'a pas duré très longtemps après ça. Mais là, il est échangé aux Nordiques. Et dès son arrivée à Québec, il a transformé les Nordiques. Du jour au lendemain, les Nordiques sont devenus une équipe gagnante. Ils ont attiré 10 000 personnes par match. Et dès cette saison-là, non seulement ils ont participé aux séries éliminatoires, ils se sont rendus en finale de la Coupe AFCO. Ils ont perdu contre les Arrows de Houston. Les Arrows avaient trois grands leaders, c'est-à-dire la famille Howe, Gordie Howe, Mark Howe et Marty Howe, qui ont gagné la Coupe AFCO. Mais Marc Tardif a, à lui seul, assuré la survie des Nordiques. Et pourquoi je dis ça? C'est que ça va au-delà du sport. C'est que vu que les Nordiques sont devenus très populaire grâce à Marc Tardif. La brasserie O'Keeffe les a achetés à peu près un an et demi après. Et la brasserie O'Keeffe les a achetés parce que Tardif avait rendu cette équipe-là incontournable à Québec, beaucoup de succès et tout. Et quand la brasserie O'Keeffe est devenue propriétaire, c'est elle qui a payé la facture pour que les Nordiques accèdent à la Ligue nationale en 1979. Sans la brasserie O'Keeffe, ça ne serait jamais arrivé. Et sans Marc Tardif, jamais la brasserie O'Keeffe n'aurait acheté les Nordiques. Alors, deux facteurs, facteurs sportifs. Sur la glace, il a été un énorme champion. Il a remporté le championnat des marqueurs. Il a mené les Nordiques à la Coupe AFCO en 1977. Mais au-delà de ça, la survie s'il y a eu des Nordiques dans la Ligue nationale, Marc Tardif est un des grands responsables. Et pour moi, sa contribution au hockey à Québec, elle est inestimable.
C'est tout à fait excellent. Excellent. Ça mérite plus qu'une médaille, ça mérite une statue. T'as si bien résumé cela et que ça me fait penser comment t'as si bien résumé également... dans cette biographie autorisée de l'ancien joueur de hockey, capitaine, directeur général du Canadien, Serge Savard, la vie de Serge Savard. Les ventes vont bien, c'est un beau cadeau à se faire et à faire aux autres aussi. Alors, ça va bien, hein, les ventes du livre
Serge Savard,
Canadien jusqu'au bout.
On est Serge est content, moi je suis content, mais tu sais, ça a été tellement un privilège pour moi de côtoyer Serge, de l'interviewer des dizaines et des dizaines de fois. Je l'ai accompagné en Abitibi quand il est allé pour le 100e anniversaire du village là où il a grandi, Landrienne, c'est quelque part entre Val-d'Or et Amos en Abitibi. Ça a été extraordinaire de lui parler écoute, on s'est parlé, je compterai plus les heures d'entrevue, mais de revenir sur son parcours de joueur, comment il a grandi quand il est très jeune en Abitibi, ses études avec le Canadien junior, avec le Canadien et tout son parcours ensuite comme grand joueur, membre du Temple de la Renommée et ensuite comme directeur général. Ça a été absolument fantastique. Serge est un conteur extraordinaire en plus, alors ça a été des moments magiques.
Ben reste en onde parce que plus tard, il va y avoir un de tes confrères qui, lui, croit que c'est indéniablement là, le gars qu'on doit souligner, à qui on doit faire une statue officiellement, là, veux dire, devant tous les grands, Marc Tardif, Michel Goulet, Bonnet Cloutier. Mais il y a un de tes confrères qui dit, lui, que c'est Jean-Claude Tremblay.
Ouais, ça se défend.
À suivre. Peut-être bien qu'il faudra faire
deux
statues. Hey, merci.
Merci beaucoup, Ron. C'est toujours un plaisir.
Bye bye.